Studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Bamako, même heure à Badiangara dans le centre du pays. Bonsoir à tous. Les grandes lignes de ce journal. Le Mali à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour les Aigles. Plusieurs missions sont assignées au futur coach. Des supporters souhaitent avoir un homme de principe et de rigueur à la tête des Aigles. Quelle solution à l'insécurité dans la région de Badiangara? Des experts préconisent le dialogue entre communautés et l'implication des autorités nationales. Au Mali, les retards sont garantis dans les services publics lorsqu'il y a une pluie matinale. Certaines structures mettent tout de même en place des dispositions pour que ces retards ne pénalisent pas les usagers. À la présentation, Adama Manou Haïdara, la mise en onde est assurée par Ibrahim Sanogo. Le Mali est à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour les Aigles. L'appel à la candidature a été lancé ce mercredi 7 août et expirera le 16 août prochain. Le premier critère pour être éligible au poste est d'être détenteur d'une licence A Pro au CAF, d'une licence A Pro UEFA ou tout autre diplôme équivalent. Pour des consultants sportifs, les objectifs fixés sont ambitieux. Les amoureux du football, de leur côté, estiment que le nouveau coach doit être un homme de principe et de rigueur. Maria Meiga.
Le temps presse. Le Mali doit impérativement avoir un coach avant les deux prochains matchs des Aigles, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Ces deux rencontres sont prévues début septembre. Mohamed Soumaré, consultant sportif, estime que le profil recherché élimine d'office les entraîneurs maliens.
En dressant le cahier des charges, la fédération concertait le ministère des Sports, puisque c'est le ministère des Sports qui effectue les paiements. Je veux dire que les autorités sportives ont les moyens de leurs ambitions. Maintenant, une chose est de recruter un entraîneur staff technique pour l'équipe nationale A. Et une autre chose est d'obtenir les résultats.
À Bamako, en passant par Tominia et Badiangara, les avis des citoyens sont partagés sur le profil de ce nouveau sélectionneur.
Il ne faut pas aller chercher des entraîneurs européens ou extérieurs.
Il faut que ce soit un vétéran qui connaît le football.
Il est bon de chercher de former nos entraîneurs davantage pour qu'on puisse avoir gain de cause.
Pour rappel, les objectifs assignés à ce nouvel entraîneur est de mettre en place une sélection nationale senior A de football sur la base des nouveaux fondements, de qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2025 et d'y atteindre au minimum les demi-finales. Autre objectif fixé pour le futur sélectionneur, qualifier les Aigles au Mondial 2026 et y atteindre au moins les huitièmes de finale.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Au Mali, la pluie matinale est synonyme de retard ou d'absence dans les services publics et les agents ont plusieurs excuses pour justifier cette situation. Pendant ce temps, des usagers sont impactés par ces absences et retards dans ces services. Un reportage signé Moussa Malé Sissoko.
Difficile de trouver tous les agents sur place dans un service public à Bamako après une pluie matinale. Certains agents ont quand même des arguments pour justifier leur retard. C'est le cas de cet employé d'un service public.
J'habite à 40 km du lieu de mon travail. Je suis à moto et souvent quand il pleut le matin, c'est très dangereux de conduire.
À la mairie de la commune 4 du district de Bamako, tous les agents ne sont pas sur place après la pluie matinale de ce mercredi. Toutefois, les chef du personnel Abduna Karambe assure que des mesures sont prises pour que le service continue de fonctionner.
La mairie offre des imperméables à l'approche de chaque hivernage. Tout le monde ne peut pas être alerte. Au niveau de chaque bureau, vous avez au moins deux agents. Et Dieu merci, tous les agents ne sortent pas du même côté. Ça ne pose pas de préjudice à l'égard des usagers.
À l'Institut national de prévoyance sociale de la commune 4, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou à la Caisse malienne de sécurité sociale, des cas de retard sont constatés. Cependant, la majorité des usagers que nous avons rencontrés dans ces structures se disent satisfaits du service. Signalons tout de même que ces retards ou absences sont rares dans les structures privées.
La spirale de violence continue dans le centre du Mali, précisément dans la région de Badiangara. Quelle solution face à la situation? Le grand dialogue de Studio Tamani a abordé la question lundi dernier. Des experts préconisent le dialogue et l'implication des autorités nationales. Aussi, ils estiment qu'une collaboration de communautés avec les forces de défense et de sécurité pourrait contribuer à diminuer certains types d'attaques. Imirana Kilumeiga.
Djoubeyrou Oumarou Diallo est le secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Selon lui, ce n'est que par le dialogue entre les différentes composantes du centre du pays que la sécurité pourrait s'établir.
Et comprendre que l'objectif des groupes terroristes, c'est toujours de les diviser. Et il faut que l'État puisse accompagner les populations. Et aussi, il faut que, du côté étatique, l'on puisse encore intensifier les opérations pour affaiblir les groupes terroristes.
Des propos soutenus par Dr Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Pour lui, il faut des stratégies cohérentes capables de faire face aux défis sécuritaires du moment.
Je pense qu'il faudrait que nous nous posions les bonnes questions, surtout les autorités, l'état-major du Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de mettre fin à ces différentes attaques? Comment lutter contre le phénomène terroriste? Je pense qu'il faut plus d'engagement, il faut des nouvelles stratégies adaptables à notre réalité sociétale pour faire face à l'extrémisme violent.
Pour rappel, plus de 120 civils ont été tué à l'espace de 3 mois dans la région de Bandiagara au centre du pays, selon la synergie des associations et mouvements de jeunes du pays Dogon.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Les cérémonies funèbres ont tendance à avoir l'apparence d'un baptême ou un mariage. Des sociologues expliquent cette situation par le changement de comportement dans la société. Pourquoi autant de dépenses dans l'organisation des funérailles? La réponse dans ce dossier de la semaine. Khalifa Guetta.
Chacun a sa version des faits sur ces organisations en pompe des cérémonies funèbres. Écoutons ces réactions recueillies à Koutchala et à Bamako.
C'est un sacrifice, mais on a complètement perdu la notion. On a tendance à transformer les funérailles en mariage.
Et les gens contribuent à prendre en charge la famille que de contribuer pour faire dépenser la famille.
Les gens viennent commenter même les plats. Ça là, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de piment.
Moi, je juge ça très grave. C'est quand le défunt est un proche de toi que tu te rends compte, en fait, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas du tout.
J'ai vu deux filles qui se sont chamaillées jusqu'à en arriver aux mains à cause de la crème. Ça n'a aucun sens, honnêtement.
Le sociologue Foyer Tandigoura explique cet état des faits par la monétisation des services rendus lors des funérailles.
Que ce soit la cuisine collective, la location des chaises, la restauration, les services mortuaires et beaucoup d'autres services qui, autrefois, nécessitaient tout simplement la solidarité de toute la communauté. Mais aujourd'hui, la solidarité communautaire ne suffit plus. Les gens doivent débourser de l'argent pour faire fonctionner les cérémonies de funérailles. Donc c'est vraiment un changement général, pas que des funérailles, mais dans toutes les formes de cérémonies que nous observons aujourd'hui.
Mieux vaut secourir un malade avec une bonne sauce que de contribuer à l'organisation de ces funérailles, dit le pasteur Joseph Camara. Selon lui, le christianisme n'impose pas de charge à une famille endeuillée.
La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc par conséquent, les funérailles constituent un moment de deuil. Tout comportement dans le sens des réjouissances généralement est interdit. Préparer cela va dépendre du contexte. S'il y a des gens qui sont appelés à rester à la charge de la famille de la personne décédée, et là encore, les croyants sont appelés à contribuer.
L'islam exige 4 étapes à suivre dans l'organisation de la cérémonie funèbre. Au-delà, les croyants, au lieu d'avoir des bénédictions, risque de se voir infliger des péchés. Les explications de Alassane Moudibouba, islamologue.
Il s'agit du lavage mortier, de l'ensevelissement et de la prière mortière et la mise en terre, c'est-à-dire de l'enterrement. Mais quant à l'organisation des fêtes et tout ce qui fait oublier le participant, la mort et les événements de la mort ne sont pas du tout souhaitables. L'islam nous exhorte à être modestes.
À noter également que chez certaines communautés au Mali, le festin est une tradition quand il y a un décès.
passées de 9 minutes dans ce studio. Ainsi se referme ce journal. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous pouvez également appeler sur le service Kounafouni au 37 321, mais il faut seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Thank you.
vous, parents, papa et maman, ce message vous est adressé.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance. Votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
Et nous accueillons à présent Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Sékou, c'est quoi le thème du Grand Dialogue aujourd'hui?
Comment donner un nouveau souffle au sport à Xikasso? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir délocalisé dans la capitale du Kénédougou. Nos invités sont Mambi Djabi Dikeletigi, président de la Ligue régionale de football de Xikasso, Malal Traoré, président de la Ligue régionale d'athlétisme de Xikasso, Cheikh Nassangaré, secrétaire général du club Le Phoenix de Xikasso, et Yoro Diallo, journaliste sportif à Xikasso.
Merci Sékou, bon débat et c'est place au magazine Tous les enfants du Mali. Le numéro d'aujourd'hui s'intéresse au petit commerce que font les enfants pendant les vacances scolaires. Une réalisation de Oumar Ouigalou.
C'est la période des grandes vacances scolaires partout dans le pays. Un moment propice pour de nombreux enfants de s'adonner au petit commerce. Cette activité leur permet de quoi acheter les fournitures scolaires.
Moi, je vends les habits pendant les vacances. Je peux vendre 6 000 francs ou 10 000 francs par jour. J'aime ce travail.
Je vends des condiments tels que les tomates, les bouillons et les oignons pendant les vacances.
Je vends des torches, les pochettes de téléphone pendant les vacances. Les bénéfices que je trouve me permettent d'acheter les fournitures scolaires.
Des parents interrogés à Yoroso, Bafoulabé et Bandiagara affirment que ces petits commerces ont plusieurs avantages pour les enfants.
Tu verras que les enfants sont à la maison, ils ne font que regarder la télé. Le petit commerce, ça c'est des résultats rapides.
C'est pour former les enfants au commerce, pour qu'ils grandissent en connaissant l'argent. Ça fait partie de l'éducation.
C'est pour éviter que l'enfant se divague ou bien l'enfant n'ait pas de mauvaises fréquentations.
Pour les pédagogues Dr Seydou Loua, ces petits commerces rentrent dans le cadre du processus de socialisation de l'enfant. En revanche, il prévient que ces activités doivent être bien organisées.
En soi, ce n'est pas une mauvaise chose pour l'enfant. Ça fait partie du processus de socialisation de l'enfant. Le fait que l'enfant apprenne à faire autre chose, à se servir de ses mains, à pratiquer quelque chose en dehors du cursus scolaire. Si ces petites activités-là de commerce sont bien organisées, si c'est juste pour que l'enfant ne reste pas à la maison, si c'est juste pour éviter de mauvaises fréquentations à l'enfant, peut-être c'est même une bonne chose pour les enfants pendant les vacances.
Les organisations de défense des droits de l'enfant insistent sur les conséquences et les risques auxquels s'exposent les enfants qui mènent ces petits commerces. Antoine Akplogan, président de la Coalition malienne des droits de l'enfant, déplore l'absence de textes pour encadrer ces secteurs informels.
Sur les routes, ils peuvent s'assimiler à un travail dangereux. Il y a risque d'accident. Un enfant ne doit pas aller travailler dans la rue. Et on doit éviter cela. L'État doit prendre des dispositions pour que ces enfants-là puissent ne pas être dans ces lieux. Les parents peuvent développer des astuces comme le travail socialisant en fonction de l'âge.
Rappelons que chaque année, les petits écoliers et petites écolières font ces métiers, faute de moyens pour les parents.